Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 23e de la saison. Tiens, 23, on salue les auditeurs de la Creuse, comme vous tous par ailleurs, qui êtes toujours aussi nombreux à nous écouter. 18h30, 20h, premier talk foot, 100% interactif, filmé sur RTL.fr ou via l'application qui réunit également tous les podcasts de RTL. 20h RTL Foot avec notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Monaco-Marseille. Alors que dans le match de 17h, c'est Nice qui mène à Lens par 1-0. Dans un instant, le stade Félix Bollard. On refait le match avec Durant 30 minutes et en loge VIP Michel Moulin. Bonsoir Michel Moulin.
Bonsoir.
Chef d'entreprise et candidat à la présidence de la Fédération française de football, dont l'élection aura lieu en mars prochain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour vous interroger jusqu'à 19h, et comme lors de la visite également de Frédéric Thiry, et lui aussi candidat, et avant d'accueillir, sans aucun doute, Noël Le Graët, qui a annoncé cette semaine qu'il se présentait à un quatrième mandat, Philippe Sanfourche, le responsable de la rubrique foot.
Bonsoir
de RTL. Bonsoir Philippe. Dominique Sévrac, notre partenaire
bonsoir
du Parisien.
Christian, bonsoir à tout le monde.
Aujourd'hui en France, bonsoir. À 19h, nous rejoindrons Cindy Colmenares et David Aiello pour les débats du soir. Mbappé, est-ce l'heure de la revanche pour Mbappé? Marseille, faut-il craindre le grand déballage? La Ligue européenne fermée sans autorisation pour l'instant de l'UEFA et de la FIFA. Les riches vont-ils faire la révolution? Et bien sûr, 20h, avant 20h, les fameux, vous le savez maintenant, les fameux tirs au but. Vos messages également sur le compte Twitter @RTLFoot, relayé par Baptiste Durieux. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Michel Moulin est notre invité jusqu'à 19h. Le direct dont fait le match, c'est Lens-Nice également. Samuel Duhamel, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Le score
1-0 pour les Niçois. Le but de Youssef Attal sur un tir tellement puissant du gauche qu'il s'est claqué sur la frappe. Les Lensois qui n'y arrivent pas. Il reste 11 minutes.
Antenne ouverte, bien sûr, en cas d'évolution de score. Michel Moulin, 60 ans, chef d'entreprise, créateur de Paris Vendu. Une réussite pour les publications de petites annonces. À l'origine également du 10 sport. Beaucoup de foot, un peu de sport. Directeur sportif, manager sportif, conseiller sportif, selon les clubs dans lesquels vous êtes passé, du PSG au Red Star, avec Istres, Tavernes, Alfortville, Le Mans et actuellement le Blois Foot 41 qui évolue en National 2. Beaucoup de choses très intéressantes, je le dis, dans votre programme. Il est ficelé de façon très très professionnelle. L'émission est filmée, je le montre à la caméra. Il y a 6 axes dans votre action. Il y a 35 propositions. Focus sur le foot amateur. Un collectif spectaculaire et inattendu réuni autour de vous, de Christine Kelly, CNews, à David Douillet, judoka ministre des Sports, Max Guazzini, ex-président du Stade Français Rugby, Franck Tapiro, communicant, Bernard Squarcini, ex-directeur du renseignement intérieur, etc., etc. Des footballeurs également, Pascal Olmeta, Peggy Luyindula, Nicolas Adieuze ou encore Kader Ferraoui. Mais quel rapport avec une élection à la présidence de la Fédération française de football, tous ces noms?
Tous ces noms, si vous voulez, bonsoir déjà. Mais tous ces noms, si vous voulez, on a analysé depuis 6 mois ce qui se passait dans le foot amateur surtout. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, d'insécurité, de racisme, d'homophobie, etc., etc. Et financier aussi. Et donc, quand vous partez là-dessus, vous cherchez comme moi, je cherche toujours de m'entourer de meilleurs que moi. Et par la sécurité, voilà pourquoi je prends M. Squarcini. Personne ne peut dire, c'est quelqu'un qui était préfet, qui est en direct avec tous les préfets aujourd'hui. Quand on parle de marketing sportif, je pense que le meilleur, et c'est le journal L'Équipe qui l'a dit, que le meilleur marketeur sportif, c'était Max Guazzini. Quand vous cherchez à avoir des gens comme Christine Kelly, elle est présidente des familles monoparentales, etc., etc. Je ne vais pas faire le tour, je ne vais pas ennuyer les auditeurs, mais chacun a un rôle précis. Quand vous voyez Bruno Kemoun, qui a été patron de l'agence Cara, donc il y a tous les annonceurs pour aller chercher des partenaires. Donc voilà, on a fait une équipe pour faire, c'est même des propositions, d'ailleurs je resterai là-dessus, des propositions, c'est pas un programme, c'est des propositions pour sauver le foot amateur qui a beaucoup de carences aujourd'hui.
Nous reviendrons sur quelques-unes évidemment de ces propositions. D'où vous vient cette bougeotte professionnelle et dans le monde du foot? Alors j'ai eu cet après-midi quelques-uns de vos adversaires au téléphone, certains parlent d'opportunisme, d'autres du sens des affaires. Certains même également, question sans concession, et je vous la pose, de mégalomanie, mais finalement très peu de passion, parce que la passion, vous la mettez en avant, mais la passion, tout le monde l'a. Et d'ailleurs, dès la page 3 de votre programme, Michel Moulin, vous dites que votre candidature n'est pas celle d'un égo, comme si vous avez besoin de vous justifier.
Non, je n'ai pas besoin de me justifier. Je suis vraiment passionné de football, déjà parce que j'y joue depuis l'âge de 6 ans. J'étais en sport-études, j'ai passé des diplômes d'entraîneur. Et après, je me suis retrouvé, si vous voulez, par ma passion, fait que je suis tombé dans des clubs, plus ou moins, qu'il y avait d'autres personnes qui y étaient. Et chaque fois, moi, je m'en retire quand les personnes veulent faire mieux ou autrement que moi.
Mais tout le monde a cette passion, Noël Le Graët aussi, Frédéric Thiry également.
Moi, je parle surtout de moi, donc ils ont peut-être cette passion, mais je ne pense pas qu'ils aient mis des chaussures à 6 ans pour jouer au football. Donc voilà. Et là, mais toutes les aides, parce que ce qui serait intéressant, c'est d'aller interroger tous les clubs que j'ai aidés. J'ai dû aider 500 clubs, j'en aide encore, et toujours pour les enfants et l'éducation des enfants. Donc les gens qui sont comme ça, vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise comme j'ai été, la réussite que j'ai eue dans le foot, parce que les gens disent que j'ai pas eu de réussite, quand j'ai pris le Restart, on a fait demi-finale à la Coupe de la Ligue avec des jeunes en national. Quand j'ai pris Istres, on est monté en Ligue 1. Quand j'ai sauvé Paris Saint-Germain, vous êtes tous là quand même. Alors, il y a des gens qui disent, il n'a pas sauvé, mais enfin.
Un peu quand même.
Un peu. Et donc, chaque fois que j'ai fait quelque chose, je l'ai fait. Même Alfortville, je les ai fait monter à National. J'ai sorti des joueurs comme Ben Yedder. Il y a plein de joueurs, des Brahim Thiam, des gens comme ça, qui disent que j'aime les gens.
Allez, votre mais, programme. Non, votre mais, programme, Michel.
C'est important Moulin. De dire ça.
Philippe Sansfourche.
Je ne suis pas naïf, par contre, sur le truc. C'est que je suis provincial. Je suis autodidacte. Et les gens qui réussissent et qui sont provinciaux et autodidactes, on a plutôt tendance à les critiquer. Voilà.
Philippe Sansfourche.
Alors, Michel Moulin, bonjour déjà.
Bonjour, chanté.
Moi, ce qui m'étonne, ce qui m'a surpris en fait dans le début de cette campagne, et peut-être que nos auditeurs vont me rejoindre sur la question, en tout cas, j'aimerais savoir, avoir quelques éclaircissements. Quand on lit effectivement votre programme, c'est très étayé, très éclairé, on parle beaucoup des amateurs, et il y a des questions qui sont soulevées, comme celle de l'insécurité. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que des gens ne veulent plus, de manière très naturelle, mettre leurs enfants au foot? Parce que y a des... Bon, ça, c'est des vraies questions. Et malheureusement, moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous ces dernières semaines pour des petites phrases. Alors, est-ce que c'était la volonté de faire le buzz? On ne va pas revenir sur chacune, mais par exemple, le fait de dire il faut un vrai patron au sein de la fédération. Ce n'est pas à Didier Deschamps de décider si Karim Benzema est persona non grata ou pas en équipe de France. Alors, quel était le pourquoi de ces sorties médiatiques? Est-ce que c'était pour exister dans la campagne tout de suite? Ou est-ce que, finalement, vous estimez que ce n'est pas suffisamment vendeur d'aller sur votre programme et sur, tout simplement, le travail auprès des amateurs?
Pas du tout. Ça démarre... Il n'y a pas de patron à la fédération, mais je peux vous dire... Des cas, on peut dénommer déjà la Coupe de France, là, vous voyez, quand des gens prennent une décision comme ça à l'emporte-pièce. Le cas Benzema, je n'ai jamais dit ça. C'est-à-dire que ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas sélectionner Benzema. Et j'aimerais qu'on parle plutôt de mon programme que de parler de ça, parce que chaque fois, je vais le répéter 10 fois, mais je vais le répéter encore
mais
une fois.
Mais en même temps, est-ce que ça n'a pas plombé un peu le début de votre candidature?
À un moment donné, attendez, de faire la langue de bois. Tout le monde fait la langue de bois aujourd'hui. Le foot dans 10 ans, il n'y en a plus. Continuons à tous à faire des langues de bois, à dire c'est bien, c'est... et jamais prendre de position, ça marchera
alors
pas.
Alors essayons alors moi, de purger le dossier
rapidement,
Benzema.
Rapidement, parce que je vais pas passer mon temps à se compter ça. Benzema, bien entendu, il y a un sélectionneur, en plus il est bon, c'est Didier Deschamps, c'est quelqu'un de bien en plus, j'ai rien dit là-dessus. Par contre, sur le cas de Benzema, les gens aimeraient savoir à un moment donné pourquoi et comment. Voilà ce que j'ai juste dit. Je n'ai pas dit « je vais sélectionner Benzema ». Mais un patron, à un moment donné, rencontre un sélectionneur avec un joueur, il essaye de régler le problème et c'est terminé. Aujourd'hui, personne ne règle le problème. Mais il y en a d'autres, comme ça, Diak Henry, par exemple. Personne ne règle le problème. Et aujourd'hui, on arrive à des situations comme en 2010, où il y a une grève des joueurs. Et là, on dit « ah, il y a une grève des joueurs ». Parce qu'on n'a pas anticipé les problèmes. Bien entendu que j'ai jamais dit que j'allais sélectionner Benzema. Il faudrait vraiment que je sois trop passionné.
Alors, c'est marrant que vous dites, M. Moulin, bonsoir, qu'il n'y a pas de patron à la fédération, parce que c'est justement ce qu'on reproche assez souvent à Noël Le Graët, c'est justement d'être le patron du football français. On l'a vu pendant le confinement, le premier, c'est lui qui s'occupait de tout, de l'arrêt du championnat, on aime ou on n'aime pas, mais c'est lui qui a convaincu les autorités, c'est lui qui passe pour quelqu'un d'autoritaire, justement, à la fédération. Donc, en quoi lui n'incarne pas le pouvoir, et en quoi vous l'incarneriez mieux?
Parce qu'un patron, il gère les problèmes humains. Lui, il ne les gère pas. Un patron, ça gère les problèmes humains. Un patron, il est proche de ses salariés, il les aime déjà, il règle les problèmes. Prendre des décisions à l'emporte-pièce, de dire le Covid, ça c'est donné à tout le monde. D'ailleurs, regardez le Covid aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire pour moi, pour les clubs amateurs, j'en suis un,
Une proposition sur le Covid.
Le Covid, 1er mars. Voilà, si le 1er mars, le championnat reprend, qu'est-ce qu'il faut faire? Première solution, avec on démarre, le championnat va s'arrêter quand, pourquoi et comment. 15 mars, voilà ce que je fais à partir du 15 mars par rapport au Covid. 1er avril, voilà ce que je fais si le championnat reprend le 1er avril. 15 avril, on est chez saison blanche.
Vous planifiez?
Là, bien entendu, vous vous anticipez. Il y a un mot, quand on est patron, c'est qu'on anticipe. Alors, on ne fait pas les choses en l'emporte-pièce. L'emporte-pièce, c'est comme de dire oui à quelqu'un. C'est facile de dire oui. Non, il faut l'expliquer.
Michel Moulin, très
bien.
Et
là, dans les décisions d'un patron, il faut anticiper
planifier.
Les choses.
Planifier, très bien. Mais lors du premier confinement, tout le monde s'est pris ça dans la figure. Mmh. On ne savait pas où on allait. Il n'y avait pas de masque. On ne connaissait pas l'étendue du dégât. Il y avait encore moins de vaccins. Et c'est quand même le Premier ministre. Mmh. On oublie un peu facilement quand même que c'est le Premier ministre devant la représentation nationale qui a décidé que le championnat de France allait s'arrêter, en écoutant peut-être ou pas Noël Le Graët, mais c'est quand même Édouard Philippe.
Vous parlez du premier confinement. Déjà là, moi, j'aurais dit, j'attends. Mais bon, l'erreur, c'est trop facile de parler après, c'est pas ça. Là, je vous parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les clubs amateurs ne savent pas ce qui va se passer. On appelle les districts, les ligues, personne ne sait qu'est-ce qu'on va faire.
Ah, par exemple, sur la Coupe de France,
d'envoyer un projet comme ça, Covid, si on démarre, ça sécurise les gens. La bienveillance, c'est ce que je parle moi toujours, de bienveillance, de reconnaissance. Des bénévoles qui sont dans les clubs. Là, les chats, ils ne savent pas ce qui va se passer.
Quelle est votre proposition pour la Coupe de France? La Coupe de France, est-ce qu'il faut qu'elle reprenne? Est-ce qu'il faut qu'elle aille à son terme?
Je rappelle que cet après-midi, Flers, un petit club de l'Orne, régional amateur, a déclaré forfait, ne jouera pas contre Rouen, car ne peut pas appliquer toutes les mesures sanitaires.
Mais c'est normal. Quand vous avez dit tout à l'heure, tout le monde a joué au football. Mais eux, ils n'ont jamais joué au football. On sait très bien, quand vous allez jouer au football, qu'il faut minimum, un mois et demi pour reprendre la compétition. En une semaine, comment vous pouvez demander aux jeunes de reprendre la compétition, de s'entraîner? Vous allez voir le nombre de blessés. Les blessures, c'est quoi? Contractures. La première, il va y avoir plein de joueurs avec des contractures, des déchirures. On ne peut pas reprendre. Sinon, pourquoi les clubs partiraient un mois et demi de préparation? Aujourd'hui, on ne peut pas dire à des gens... Il y a des matchs, je ne sais pas le résultat. Par exemple, quand j'aurai allé, Créteil-Sainte-Geneviève. Mais si Sainte-Geneviève gagne, il faut vraiment un miracle. Créteil, État national, continue à jouer. Parce qu'il est international, là aussi. National, ils sont amateurs. C'est amateur marron, là aussi. Il n'y a pas de décision depuis longtemps. Et Sainte-Geneviève n'a pas repris le championnat. Donc Créteil-Sainte-Geneviève, regardez
donc
le match.
On annule la Coupe de France.
Mais on annule peut-être pas. Mais on ne fait pas ça comme on l'anticipe. Ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas dire à 8 jours des trucs, vous reprenez les matchs. C'est impossible. Ça, même si vous pouvez trouver toutes les excuses possibles et imaginables, c'est des décisions prises à l'emporte-pièce.
Ouais, enfin, c'est bien d'anticiper et de repousser les dates, mais le calendrier va être comprimé. Il y a l'Euro qui arrive également.
Mais il y aura peut-être une saison blanche.
Donc, focus, en tous les cas, dans votre programme, à l'écoute du football amateur. Mmh. On le comprend bien, ça. Comment expliquez-vous que 63% de la représentation de la fédération qui vote, 63% des amateurs votent à contrario de ceux qui portent la voix justement du football amateur. Pourquoi?
Parce que c'est les instances. Aujourd'hui, une élection comme ça, si vous voulez, ben là, là, vous voyez, j'ai fait 2500 km en 3 jours. Là. J'ai fait pratiquement, j'ai fini à Angoulême tout à l'heure. Aujourd'hui, sincèrement, c'est une élection dans une cabinet téléphonique, si vous voulez l'expression, vous voyez. Parce qu'il y a très peu d'électeurs.
200.
Pour moi, un peu plus. Mais aujourd'hui, l'élection, moi je suis président, il faut demain que tous les clubs votent. Minimum, si ce n'est pas l'essentiel. Il y a 15 000 clubs. Si les 15 000 clubs votaient, hein, le résultat serait peut-être différent de ce qu'il risque d'être.
Voilà. Et ces présidents de district et de ligue, vous voulez les rémunérer?
Non, ça c'est une proposition que je fais. À un moment donné, là aussi, on revient à des patrons. Quand vous êtes président de district, vous travaillez toute la semaine au district. Bénévole, ça a une certaine... Tout travail mérite à un moment donné salaire quand vous en faites beaucoup. Et surtout, quand vous êtes rémunéré, vous avez des droits et des devoirs après. Des objectifs. Quand vous êtes bénévole, vous ne pouvez pas demander à des bénévoles des objectifs.
Ce n'est pas une façon de... Non pas, pardonnez-moi, cette expression, elle est impropre. Hein. D'acheter leur voix, en tout cas, de les appâter.
Non, parce que M. Thierry a dit la même chose et M. Le Graët a commencé. Là aussi, encore une fois, vous voyez, l'exemplarité, c'est qu'ils ont commencé à le faire dans certains coins et pas d'autres. Il y en a qui sont payés, d'autres ne sont pas payés. Non, il a déjà fait. C'est pas les acheter. Monsieur Le Graët a commencé à le faire. Et Monsieur Thierry se le propose aussi.
Monsieur Le Graët rémunère les présidents de district et de ligue?
Trois de ligue, pour l'instant.
Lesquels?
Nice, Bordeaux et Paris. Donc c'est pour ça que Monsieur de Paris, certainement, va partir avec lui sur sa liste.
Jamel Sandjak est rémunéré. Ah bah
donc vous êtes en train de dire qu'il achète les voix, alors, d'une certaine façon.
J'ai pas dit ça. Ne dites pas ce que j'ai dit. C'est là que vous me dites, je dis pas ça.
C'est pour ça que Monsieur Sandjak va aller sur sa liste, vous dites.
Non, je dis à un moment donné que ça semble bizarre, ça aussi, vous voyez, dans le football.
Philippe Sanfourche.
Bon. Quand on reprend cet exemple de la Coupe de France, on sait très bien que si aujourd'hui la Fédération et Noël Le Graët tentent d'aller au bout de cette compétition, c'est aussi pour redistribuer des ressources financières aux amateurs. On parle de 12 millions d'euros de redistribution. À votre avis, est-ce qu'il faut plus de redistribution? Est-ce que ça passe aussi par là, de mieux prendre en considération ce monde amateur? Est-ce que ça passe par le plan financier?
C'est obligé. Sinon, là aussi, je reviens toujours à ce que vous dites en disant... Moi, j'ai deux solutions, si vous voulez. Il y a, premièrement, une réduction drastique des coûts de la fédération. Parce qu'il y a des salaires énormes à la fédération qui, dans une société normale, n'existeraient pas. Il y a des frais, ils font beaucoup, beaucoup de frais. Donc déjà, il faut une réduction drastique des coûts pour redistribuer. Et la deuxième chose, c'est d'aller... Et c'est là que j'ai la chance d'avoir Bruno Kemoun avec moi. Et moi-même, avec ce qu'on a fait à Paris-Venu, parce que Paris-Venu, c'était 147 000 clients facturés par un professionnel. Donc on a un réseau de clients qu'il faut aller qu'on cherche des partenaires. Alors pas des partenaires pour sponsoriser comme on entend, mais des partenaires surtout pour éduquer les enfants. Quand vous parlez à des partenaires qui sont associés à quelque chose, ils vont donner beaucoup plus. Et donc notre rôle, c'est d'aller chercher beaucoup de partenaires. La fédération anglaise aujourd'hui, c'est 580 millions d'euros. La fédération française, 260. Dont 100 seulement qui est donné au football amateur.
Quand vous dites réduction des salaires à la Fédération française de football, voire réduction de postes, car vous estimez qu'il y a beaucoup trop de monde à la Fédération française de football, quel regard vous avez actuellement sur les tensions internes au sein même de cette Fédération française de football?
Ça répond à la question que vous me posiez, pourquoi vous posez cette question, c'est qu'il n'y a pas de patron. Les tensions, elles arrivent quand il n'y a pas de patron. Quand vous laissez aller toutes les situations sans gérer les tensions. Moi, quand je vois en plus qu'on a pris une société qui a coûté, ça a dû coûter énormément d'argent pour apprendre à manager les gens.
C'était un audit plutôt.
Non, c'est pour apprendre à manager, puisqu'on va dire faites attention, ça il ne faut pas dire, ça attention, il ne faut pas le dire. Là, vous arrivez à un secteur que le management, s'ils n'ont pas compris, ça ne s'apprend pas.
Mais vous remettez en question, parce que quand vous parlez de salaire trop important, vous visez quelle branche spécifiquement? Parce que par exemple, la fédération sous Noël Le Graët s'est développée, ça c'est indéniable, sur le plan par exemple marketing, avec des services qui ont aussi permis le développement, vous parliez de partenaires, le contrat Nike par exemple, c'est quand même une... on ne peut pas nier, le contrat Nike, c'est un des plus gros avant que l'équipe de France redevienne championne du monde qui a été négocié. Est-ce que pour vous, ça, c'est
mais je vais vous dire, quand vous avez les contrats qu'ils ont, je ne vais pas les dire, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Donc quand vous avez, pour faire ça, vous avez une personne en marketing ou deux, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en avoir 20 ou 30 comme ils ont. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est réduction. Il y a 27 directeurs. 27 directeurs pour 300 personnes. Ça s'appelle ça une armée mexicaine.
Frédéric Thierrier dit 18.
Non, 27.
18h51, on refait le match. Loge VIP avec Michel Moulin, candidat à l'élection à la présidence de la Fédération française de football. Une page de publicité. Et puis après avoir parlé du fonctionnement de la Fédération française de football, du football amateur, parlerons également du football professionnel et des difficultés auxquelles il est actuellement confronté. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Michel Moulin, candidat à l'élection à la présidence de la Fédération française de football. Avant le football professionnel, Michel Moulin, vous avez un plan d'action en 6 axes. J'en ai retenu 2, l'éducation et la violence. L'éducation, Noël Le Graët dit qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Quel est votre avis?
Mon avis, je vous dis, tenez, si j'avais dit ça moi, je pense que la France entière, vous auriez fait des milliers d'émissions pour dire que j'étais pas sérieux.
Il a été taclé, Noël Le Graët, sur cette question-là.
Pas comme moi. Moi, je dis juste Benzema, il y a un truc, on aurait dit que j'avais... Là, si c'est moi qui prononce cette phrase, Là, je pense que voilà. Et là, sincèrement, enfin, vous-même, si vous dites que M. Le Graët là-dessus a raison, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est le principal. Mais il y en a beaucoup de racisme. C'est pas le racisme comme on peut penser entre des joueurs de couleur. Il y a un racisme de partout.
Et comment combattre le communautarisme également? Les mômes ne peuvent plus maintenant se doucher tout nus. C'est en slip. Et il y a les prières, non pas dans les vestiaires, mais au coin de stade. Comment vous pouvez combattre ça?
Demandez à Monsieur Le Graët.
Non mais vous, si vous êtes président.
Vous après, voilà, c'est ce que je parle avec Monsieur Squarcini, et d'aller parler. Moi, je parle avec. Moi, aujourd'hui, je suis ami avec le président de Viry-Châtillon, par exemple, Morad. On parle de ça, on essaie de faire avancer les... On parle aux enfants, on
parle...
La solution, c'est de... À 8 ans, un petit, il a ni religion, il a ni... il a envie de jouer au football. Et les gens, c'est la mixité. C'est ça, ce que je veux dire dans mon programme, d'ailleurs. Je vous promets que c'est... Moi, il faut que ça reste, ça. Après, les gens feront comme ils voudront. Vous voyez, les gens qui me prennent méga, qui prennent le football, qu'ils en font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon problème. Moi, ce qu'on a marqué là, c'est pour le sauver. Si les gens veulent pas le faire, ils font comme ils veulent.
Le football professionnel, Philippe Sanfourche.
Oui, il y a une crise majeure qui frappe aujourd'hui le football professionnel. C'est la crise du diffuseur. En quoi est-ce que la fédération a sa part de responsabilité en la matière? Et si demain vous êtes aux responsabilités, qu'est-ce que vous proposez pour déjà régler cette situation et surtout pour préparer l'avenir et faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus?
Moi, il y a quelque chose d'important là-dessus, vous voyez, parce que c'est vrai qu'après, c'est facile de critiquer. Moi, j'ai la chance d'avoir un journal qui s'appelle Le Disport et je l'ai écrit en juin 2019. C'est-à-dire, comme je dis, je suis pas le seul un peu qui réfléchit. Donc, on a réfléchi avec mes journalistes, mes très bons journalistes, que Mediapro était en difficulté financière en 2019. C'est écrit, ça. Donc, c'est annoncé, un bide annoncé dans mon journal. La deuxième chose, quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas pris de garantie financière, parce qu'on le savait, c'est pas d'aujourd'hui qu'on savait qu'ils n'avaient pas pris de deuxième souci.
Ça a toujours été le cas. Hein.
Et troisième
Depuis
souci.
Les premières négociations époque Canal historique, ça a toujours été le cas.
Troisième souci. Ouais, mais Canal, c'est des Français, on les a à côté. Hein.
D'accord.
C'est pas des Chinois, Espagnols, qu'on ne sait pas d'où ils arrivent. Et troisième chose, c'est quand M. Quillot prend sa prime de 500 000 euros, c'est-à-dire c'est comme si vous êtes journaliste, parce que vous m'avez invité, vous prenez une prime de 10 000 euros. Vous êtes là pour faire le travail, normalement, d'aller chercher les droits. Enfin, il apprend immédiatement, avant que le contrat arrive, le truc était dans le mur. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est impossible. Donc, la solution de la fédération. Et c'est là qu'on repart du management qui a un problème d'anticipation. Ils ont le bouton rouge, comme ils appellent. Là, ce jour-là, pour Strasbourg et Amiens, vous avez vu qu'ils ont eu le bouton rouge, ils sont allés contre la Ligue. Les gens de la fédération, ils ne se sont pas rendus compte de ce que j'ai fait. Je ne suis pas plus intelligent que les autres, loin de là. Ils n'ont pas pu penser la même chose que moi. Ils n'ont pas pu appuyer sur le bouton rouge et de dire « Attendez à la Ligue, c'est vous les patrons, mais faites attention que là, il y a un souci avec un Mediapro. » Et aujourd'hui, des solutions, il n'y a plus à en avoir. J'en ai même envoyé, pour tout vous dire, au gouvernement, parce que je m'intéresse à tout, j'ai envoyé un courrier au gouvernement leur disant « Attention, faites pas... » Ils l'ont repris dans le Parisien, par France Télévisions. Je l'ai vu dans le Parisien, c'est une idée que j'avais donnée. Parce qu'en disant, il y a la période de confinement, donnons du football un peu aux gens en clair.
Dominique Sévrac, Parisien aujourd'hui en France.
Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Vincent Labrune? C'est le président de la Ligue.
Moi, ça a toujours été très convivial, parce que moi, Vincent, je le connais, alors je vous parle depuis très longtemps. Donc ça doit être 20 ans, vous se voyez déjà. Et après, je l'ai vu avec les frères Carrias, avec qui j'étais copain, Michel et Louis. Donc, je les voyais au Louis 25 à l'époque. Je crois que je vous avais croisé l'un ou l'autre là-bas. Donc voilà, Vincent Labrune, c'est quelqu'un qui a fait des choses à Marseille, qui aujourd'hui connaît le football. Et c'est mieux d'avoir quelqu'un qui connaît le football que voilà, en reparlant à M. Quillot, qui connaît rien au football. Donc c'est mieux d'avoir Vincent Labrune. Il va être plus malin, il connaît les médias, il va être plus malin.
Didier Quillot, qui ne connaît rien au football, il appréciera.
Ah non, mais il connaît rien au football. Mais c'est sûr, d'avoir ceux qui viennent de faire les médias pro, si quelqu'un me dit qu'il connaît le football.
Oui, enfin, derrière Didier Quillot, il y avait aussi quand même pas mal de présidents de clubs de Ligue 1 qui ont.
Directeur exclusif. Ouais. Directeur général. Vous le disiez tous dans votre truc. Directeur général exclusif.
Mais dans nos papiers, on rappelait que les présidents de Ligue 1 étaient là également.
Exécutif.
Exécutif. Mode de fonctionnement des clubs, Michel Moulin. Noël Le Graët fustigeait les acrobates de la finance. Thierry, dans ce studio à votre place, répondait, mais un foot sans investisseur, c'est le football d'avant. Vous êtes entre les deux?
Ouais, je suis entre les... Enfin, là aussi, Noël Le Graët avait annoncé que Mediapro, c'était la meilleure chose qui s'était produite pour le football depuis des années. C'est des acrobates ou pas. Il faut comme de partout, des patrons. À chaque club, on voit les clubs qui marchent aujourd'hui, les clubs qui ne marchent pas. Et à la tête des clubs où ça marche, c'est qu'il y a des gens compétents. On reprend la compétence. Après, l'argent, bien entendu, qu'il faut beaucoup d'argent. Mais aussi, vous voyez l'OM aujourd'hui, ils ont dépensé, je crois, 200 millions d'euros pour prendre Strootman, Mitroglou et Abdennour. Bon, je veux bien, mais bon, voilà, faut se connaître un peu le foot.
On va devoir se quitter, Michel Moulin. L'esprit de votre liste, ouais. C'est quoi, l'esprit ?
À l'esprit, c'est sauver le football.
Sauver le football. Et votre première mesure, si vous êtes élu ?
Il y en a deux. Il y a le Covid, il y a la situation Covid aujourd'hui. Il faut vite se mettre au travail. Et deuxièmement, il faut trouver des partenaires importants pour amener de l'argent au club amateur. Parce qu'ils vont mourir.
Loge VIP terminée, Michel Moulin, ça va vite.
Merci beaucoup.
Ah ouais, ça va très très
surtout
vite.
Surtout moi, je parle beaucoup.
Affaire à suivre en tous les cas.
Merci beaucoup, messieurs. Voilà.
Merci Michel Moulin. Michel Merci Moulin, beaucoup. Invité dans la loge VIP de On refait le match, qui va se poursuivre derrière 19h, avec notamment, et pas seulement, Cindy Colmenares et David Aiello qui vont nous rejoindre. La publicité, les informations de 19h. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On refait le match, 19h06 déjà. Nous rejoignent dans ce studio Cindy Colmenares. Bonsoir Cindy.
Bonsoir à tous.
Et David Aiello, bonsoir David.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Toujours avec Dominique Sévrac, notre partenaire du Parisien aujourd'hui en France. Rebonsoir.
Rebonsoir Christian.
Et Philippe Sanfourche, inamovible, toujours fidèle au poste, le responsable de la rubrique football. Rebonsoir Philippe.
C'est un plaisir, rebonsoir.
Les débats à venir évidemment tout à l'heure. Mbappé avec nos amis de Doxa, Winamax, sur l'image de Mbappé. Mbappé qui commençait à faire un peu de surplace. Mbappé qui marque 2 buts hier. Mbappé qui a pas fait non plus un match extraordinaire, mais enfin bon, il s'est remis dans le sens
dans tous les bons coups
de la marche. On en parlera. 26, on parlera de Marseille également, évidemment, l'Olympique de Marseille qui commence à se débarrasser. Hein. Mitroglou, rupture de contrat, il part en Grèce. Sanson, il part à Aston Villa. Bon, l'OM se renforce également. Donc pour Marseille, la question sera la suivante. Faut-il craindre le grand déballage? Car il y a également, il faudra en parler, du conflit entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, qui est d'ailleurs validé par l'entraîneur Villas-Boas. Et puis la Ligue européenne fermée également. Pas d'autorisation pour l'instant de l'UEFA et de la FIFA. Attention à la partie de poker menteur. Est-ce que les riches vont faire la révolution et vont faire fi des recommandations de la FIFA et de l'UEFA? Un débrief quand même, les amis, sur l'intervention de Michel Moulin. Après Frédéric Thiriet et Michel Moulin dans ce studio, donc, candidat à la présidence de la Fédération française de football. Qu'en avez-vous pensé? D'abord, à tout seigneur tout à l'heure, c'est Nicole Ménard.
Alors, j'attendais du renouveau, finalement, je vois du réchauffé. Je le vois d'ailleurs dans les discours, quand il parlait notamment de Benzema. Aujourd'hui, il ne voudrait pas qu'on en parle, mais il tacle à nouveau en indiquant qu'à la Fédération française de football, il n'y a pas de patron, que lui, c'est ce qu'il avait dit par ailleurs, avec lui, Benzema aurait été dans les groupes. La réalité, c'est que c'est quand même assez étonnant, parce qu'en France, on est habitué, il y a cette culture de l'instant où on parle en 2018, en 98, des entraîneurs, on parle en bien, en mal, mais après que l'entraîneur ait gagné la Coupe du Monde, c'est quand même assez étonnant de voir maintenant des reproches. De toute façon, il y a quelque chose qui est clair, on ne veut pas en France, et je pense qu'il faut en être conscient, un président d'une fédération de football qui ait la main mise sur toutes les décisions du coach. Un coach doit quand même rester libre de ses choix, de ses décisions. Et aujourd'hui, j'ai même envie de dire que, par rapport à ce qu'il nous indique M. Moulin, s'il avait été président de la Fédération française de football, eh bien, la France ne serait peut-être pas championne du monde.
En l'occurrence, Michel Moulin a, semble-t-il, ce soir, adouci un peu sa position par rapport à la décision qu'il aurait prise concernant Benzema, Didier Deschamps et Noël Le Graët. David Aiello.
Oui, il a fait un petit peu de politique, et je pense qu'effectivement, il va falloir qu'il s'y mette. Michel Moulin, c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le milieu, parce que ça fait des années qu'il côtoie ce milieu. Moi, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un de passionné. Il aime le jeu. Je pense que ça, on peut pas lui retirer. Je pense également que c'est quelqu'un qui a pas mal d'idées. On le voit également dans son programme. Il a beaucoup d'énergie, etc. Par contre, je pense qu'il lui manque quelque chose. Et justement, c'est ce qu'il est peut-être venu faire, mais je sais pas s'il va réussir. C'est cette dimension politique. Parce que ce poste-là de président de la fédération, c'est un poste éminemment politique. Et hélas pour lui, il fait face à quelqu'un qui est un animal politique, Noël Le Graët. Donc, je pense que effectivement, il y a eu sur Benzema, il s'est peut-être rendu compte qu'il avait un petit peu trop parlé. parler, mais moi je pense qu'il a cette dimension-là, j'ai cité quelques-unes de ses qualités, mais en revanche, elle a la dimension politique, il ne l'a pas. Donc je pense que ça va être extrêmement difficile pour lui que d'arriver à, ne serait-ce qu'à inquiéter Noël Le Graët.
Deux choses, Christian, je pense que ce soir, on a eu le bon Michel Moulin, celui qui n'est pas venu faire des punchlines, comme on dit, ou faire du buzz, c'est lui qui est venu discuter sur le fond. Après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, il est venu exposer sa vision du football. Voilà, ça c'est sur la forme. Sur le fond, il avait un message, Le Graët est un dirigeant dépassé. Selon lui, c'est un dirigeant dépassé dans tous les domaines. Il est dépassé dans la gestion de sa fédération, la gestion humaine, managériale, entrepreneuriale. Il est dépassé pour le confinement, pour le Covid. Il est dépassé sur tous les sujets, en fait. Donc c'était ça son axe. Il veut remplacer un dirigeant de 79 ans qu'il estime dépassé.
Michel Moulin, il fut un temps, Philippe Sansfourche, effectivement, Dominique Sévrac aurait pu le dire de façon un peu plus crue. Mais on a senti un Michel Moulin un peu adouci, un peu politique ce soir.
Ben parce que plus on va se rapprocher de la date du vote et plus il faut des gens en qui vous avez envie de confier votre avenir. Et je pense que les électeurs, les grands électeurs de la fédération ne veulent plus de déclarations grandiloquentes, mais des choses concrètes sur lesquelles s'appuyer. Moi j'ai quand même envie, parce que maintenant qu'on a reçu et Frédéric Thiriez et Michel Moulin, la synthèse de deux personnages qui sont diamétralement opposés, mais qui se retrouvent quand même dans une situation un peu similaire, c'est que finalement, il y a peu de marge de manœuvre. Parce qu'en face, il y a un bilan sportif qui est inattaquable, un bilan financier, quoi qu'ils en disent, qui est quasiment inattaquable. Et sur la fronde, supposée fronde des amateurs, on s'aperçoit quand même que dès que ça doit être validé par le vote, ce monde amateur, qui a tendance à être un petit peu à l'image de la France, en règle générale, toujours un petit peu vindicatrice, in fine, ils suivent Noël Le Graët. Donc il faut aller sur une marge qui est assez
on
ténue.
On peut pas nier, Philippe, que le monde amateur souffre. Ça, on peut pas le nier. Peut-être
mais
que...
il souffre pas du fait que Noël Le Graët soit à la tête de la fédération.
Comme ça, c'est vrai.
On est dans une situation, toutes les fédérations perdent des licenciés. On n'a pas trop discuté de ça, mais c'est un axe aussi. La perte des licenciés, ce sont toutes les fédérations. Et ensuite, la redistribution au monde amateur. On a parlé tout à l'heure du contrat Nike, on a parlé après la Coupe du Monde, il y a eu 10 millions qui ont été reversés. À tous les niveaux, il y a de la redistribution, plus qu'il n'y en avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils peuvent réellement attaquer à ce niveau-là.
Alors la Fédération Française de Football ne perd pas tant que cela de licenciés.
Moins
que les autres, aurait plutôt même tendance à
progresser, ouais.
400 000 en 8 ans.
Oui, mais grâce au football féminin. Voilà,
c'est 350 000 en 8 ans.
Voilà, c'est l'axe de communication de la Fédération, de dire grâce au football féminin, on stabilise au moins la chose. Et puis le deuxième paramètre qu'il faut prendre en compte, effectivement, c'est qu'il n'attaque pas d'ailleurs de front Le Graët. Il n'a pas employé d'ailleurs le mot, à ma connaissance.
Un petit peu sur le
personnage, sur le système, la façon de gérer, de manager.
Voilà, exactement. Sur le point qui est d'ailleurs peut-être un point délicat pour Noël Le Graët, c'est effectivement la gestion de la fédération. Mais j'ai envie de dire, c'est presque un détail dans le débat du football français. C'est-à-dire que la question de la gestion de la FFF, c'est important évidemment pour la FFF, pour ses salariés, etc. Mais quand
c'est
on met ça.
C'est plus un problème du boulevard de Grenelle qu'un problème pour
le
football.
Quand on met ça dans la balance du bilan de Noël Le Graët, oui, c'est très important pour les gens effectivement, du siège de la Fédé, mais ça pèse peu.
Entre les candidats, en tout cas, ce qu'on peut s'en apercevoir, qu'ils sont tous arrivés comme défenseurs du football amateur. Et moi, ce qui me surprend, c'est que clairement, au niveau des Noël Le Graët, il y a des investissements qui ont été faits, en tout cas pour la saison 2019-2020, des 94 millions. Ensuite, suite à la situation du Covid, 30 millions à nouveau injectés sur 12 saisons. Donc, on se demande, au niveau du football amateur, il y a eu des efforts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu l'as dit à juste titre, Philippe, que le monde amateur suit quelque part Noël Le Graët. Et après, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un positionnement un peu de la part des Moulins. Je l'ai entendu entre les lignes lorsqu'il parle. Vous savez, moi, je suis provinciale. Ici, bon, à Paris, les choses que j'aurais dit auraient été prises différemment, etc.
Enfin, on aurait pu dire que Noël Le Graët est des Côtes d'Armor également.
Mais non, mais en fait, ouais, mais... souvent, on critique. Et il critique, par ailleurs, Noël Le Graët dans une certaine façon, en disant que Noël Le Graët, finalement, il est très parisien. Tout est concentré à
Comment
Paris.
Comment vous dites, Cindy, Noël Le Graët pas... Noël Le Graët.
Oui, Noël... c'est ce qu'on...
bon gré,
Le Graët à gré, c'est une expression actuellement qui est à la mode d'ailleurs.
Oui, alors le président actuel de la Fédération française de football, si vous voulez. Non. Alors lui, effectivement, il a tendance, selon ses détracteurs, à rester un peu renfermé avec sa position un peu parisienne, etc. Donc il voudrait qu'il soit plus déplacé. Et j'ai l'impression qu'il se vend comme les dirigeants qui seraient à même d'aller voir les petits clubs, aller voir tout le monde. C'est la même chose pour Thierry.
Madame, messieurs, il est intéressant de savoir maintenant, de voir en tous les cas, comment va se positionner Noël Le Graët, car il y a eu un gros focus foot amateur de la part de Frédéric Thiriez, politiquement correct. Gros focus amateur de la part de Michel Moulin, mais avec quelques tacles glissés, mais ce soir, tout à fait dans l'esprit du jeu, on va dire. Et comment va se positionner Noël Le Graët? On l'a peut-être deviné un peu dans le courrier qu'il a adressé aux acteurs du football, moins positionné en numéro 1, et mettant en avant peut-être, à l'occasion de ce quatrième mandat, une œuvre un peu plus collective. Pas comme ça que vous l'avez ressenti, Philippe Sanfourche?
Oui, après, moi, je suis étonné que, sans attaquer l'homme sur son âge et sur son équipe et sur la capacité à pouvoir refaire un mandat sur la durée, c'est pas attaquer l'homme que de rappeler que c'est un monsieur qui arrive à la fin d'un mandat après avoir eu des difficultés de santé et avoir un certain âge, et qu'il y a la question qui se pose effectivement de la continuité dans les années à venir. Lui-même ne s'en cache pas, qu'il prépare déjà la suite. Et je trouve que ses opposants ne mettent pas beaucoup l'accent là-dessus.
Très sincèrement, oui, je m'attendais pas à quel Noël Le Graët, même si apparemment tout Paris s'attendait.
Parce que lui en parle, ça pourrait paraître délicat sur le plan humain, mais lui est le premier à ne pas se cacher.
Après, bon, t'as Biden aux États-Unis.
Que Marc Keller soit là derrière dans les tuyaux.
À un certain âge.
Non, c'est vrai, il a un an de plus que Joe Biden. Hein,
bah oui, et il a été élu président des États-Unis.
On en parle beaucoup plus.
Ce qui me fait rire, c'est que tout le monde se bat pour des programmes. Thierry a un programme magnifique, Michel Moulin a un programme magnifique. Et je pense que Noël Le Graët, il ne va pas avoir de programme comme d'habitude. Il va dire oui, il faut gérer. L'idée d'échange gérera très bien l'équipe de France. Nous, le marketing, on va s'occuper de faire des contrats.
Quand tu es sortant, tu joues sur la continuité.
Et en fait, il n'a jamais eu de programme et il est chaque fois réélu. Et eux, ils se fatigue à trouver un problème qui, encore une fois, il y a des bonnes choses dans le programme de Moulin et dans le programme de Thierry, mais malheureusement pour eux, c'est quand même Noël Le Graët qui est l'archi favori de sa
propre... Il n'a jamais eu de programme, il y a un programme gagnant à l'arrivée.
Tous les politiques, non ?
Philippe Sanfourche a bien fait de relever quand même les contrats marketing qui sont quand même pas... Michel Moulin nous disait, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de gros... Mais Le Graët préfère peut-être préserver la qualité avec très peu de contrats, mais de gros contrats. Et puis ma foi...
C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut que la Coupe de France aille au bout, parce qu'il aime bien honorer les contrats qu'il a signés.
Et même quand on va chercher Michel Moulin sur les conflits internes, etc., il met le pied quand même sur la pédale de frein.
Sur le football amateur, la première réponse de Noël Le Graët, ça va être quoi? Ça va être de dire, mais attendez, regardez l'ensemble des fédérations, mais au-delà même d'ailleurs du monde sportif, du monde culturel, en France aujourd'hui, qui a obtenu, avec la Coupe de France en l'occurrence, un assouplissement des protocoles dans le monde dans lequel on vit en ce moment, alors qu'on est en train de parler de possibles reconfinements. C'est une victoire politique qui est énorme, ce qui se passe avec la Coupe de France.
C'est une victoire
alors,
de communication et d'image.
Que ce soit imparfait,
oui, mais Philippe, c'est aussi une victoire politique dans le sens
c'est
où
une
on
victoire
sait
politique
que
qui est
Noël
Le Graët
a ses entrées à l'Élysée. Ce qui n'est pas le cas de
avoir obtenu ça en ce moment, l'assouplissement des protocoles pour les amateurs qui sont les seuls à pouvoir reprendre une activité sportive dans un sport de contact, avec des entraînements, avec une compétition, c'est absolument unique.
Avant la publicité, les messages, les nombreux messages, sans aucun doute sur les réseaux sociaux, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le compte @RTLFoot, message relayé par Baptiste Durieux. Baptiste.
Exactement, sur justement l'intervention de Michel Moulin, message d'Alexis. Michel Moulin n'a pas tort sur le côté peu interventionniste de Le Graët. Il ne s'agit pas de sélectionner Benzema ou de virer Corinne Diacre, évidemment, mais provoquer au moins le dialogue et anticiper. Un message de Johan également sur le football amateur. Michel Moulin a une vraie légitimité. On entend les mêmes discours, certes, mais je sens plus de sincérité chez Michel Moulin. Également d'accord sur les effectifs et les salaires trop importants au sein de la fédération et cette volonté de décentraliser. Et message de Corentin sur le président actuel. Il nous dit « Tout ce que je vois, c'est que Noël Le Graët est intouchable, un homme politique surpuissant, les fesses vissées à son fauteuil », nous dit Corentin.
Voilà qui est dit. Au moins, ça le mérite de la clarté et tous les avis, à défaut de compter en tout cas, doivent être entendus sur l'antenne de RTL. RTL d'ailleurs qui se fera un plaisir après Frédéric Thiriez et Michel Moulin d'accueillir, dès qu'il le souhaitera, avant les élections on l'espère, Noël Le Graët, l'actuel président de la Fédération Française de Football. Madame, messieurs, la publicité et ensuite retour au ras des pâquerettes, j'allais dire, au ras du gazon avec notamment Kylian Mbappé, mais l'actualité PSG dans sa globalité, l'actualité Marseille dans sa globalité également,
et avec nos amis d'Odoxa et de Winamax. Je vous poserai la question suivante. Est-ce que l'heure de la revanche a sonné pour Kylian Mbappé? À tout de suite.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
La suite d'On fait le match, toujours avec Cindy Colmenares, David Ayello, Dominique Sévérac et Philippe Sanfour. Je vous rappelle que dans le match de 17h, Nice est allé gagner à Bollard face au Racing Club de Lens par 1-0. Premier commentaire, décryptage, réaction également à partir de 20h dans RTL Foot en compagnie d'Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Domer, Quentin Vasselin et Raymond Abou avant le coup d'envoi d'un choc quand même ce soir, puisqu'il opposera Monaco à l'Olympique de Marseille. Je salue l'arrivée d'Erwan Lestrand. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Directeur des études pour Winamax, enfin plutôt pour Odoxa, mais avec nos amis de Winamax, avec un baromètre, un sondage consacré à Kylian Mbappé qui a été fait avant le match d'hier soir où Kylian a signé, a marqué deux buts. Victoire du Paris Saint-Germain 4-0 face à Montpellier. Mais il était intéressant d'aller un peu plus loin dans l'image que dégage Kylian Mbappé depuis, on va dire, une baisse de régime, une baisse de forme. Alors, avant, madame, messieurs, de commenter ce baromètre, ce sondage, on va demander à Erwan de le détailler. Vous avez utilisé et proposé aux Français et aux amateurs de football plusieurs qualificatifs concernant Kylian Mbappé. Sympathique, concentré sur le foot, travailleur, spectaculaire, charismatique et humble. Qu'en ressort-il, Erwan ?
Alors, ce qu'il en ressort, c'est deux informations principales à retenir. La première, c'est que la popularité de Kylian Mbappé se dégrade, mais elle reste très élevée. 8 Français sur 10 le trouvent sympathique, mais il perd 3 points par rapport à notre mesure de novembre 2019. 7 Français sur 10 le trouvent spectaculaire, mais il perd 5 points par rapport à notre mesure de novembre 2019, et il perd aussi 9 points d'humilité, même si 6 Français sur 10 le trouvent humble. Donc une image très positive, mais qui se dégrade un peu. Pour autant, et en phase avec sa mauvaise passe du moment, les Français considèrent pas qu'il est désinvesti. 7 sur 10 nous disent qu'il est travailleur, et même 8 sur 10 parmi les amateurs de football, et 77% nous disent qu'il est concentré sur le football. Donc une image qui se dégrade, mais pour autant Kylian Mbappé qui reste très bien évalué par les Français, on sait que c'est le joueur préféré de l'équipe de France, et qui n'est pas considéré comme désinvesti du football.
Un commentaire, une image qui se dégrade très très légèrement, c'est passager, Philippe Sanfourche.
Je crois qu'en fait, il y a une loupe médiatique, et c'est notre rôle d'analyser match par match scrupuleusement les baisses de régime. Mais les Français ont un regard un peu plus distancié et n'oublient pas ce que Kylian Mbappé a été capable d'offrir au PSG, au foot français dans son ensemble. Donc il y a une perception effectivement d'un moment un peu plus difficile, mais qui ne dégrade pas du tout l'image qu'il a. Et je crois qu'on pourra en parler aussi par la suite, mais ce qu'on peut projeter aussi pour le joueur, c'est-à-dire sa capacité à devenir le meilleur du monde et un jour avoir le ballon d'or. Je crois que les chiffres ont assez peu baissé.
On va y venir, on va y venir. Dominique Sévérac.
Je pense qu'on était dans la passion et qu'on est retourné, on revient à la raison. C'est-à-dire qu'il y avait une telle démesure dans la dithyrambe, comme d'ailleurs là je l'ai vu récemment, comme dans la critique, j'ai entendu des choses d'une violence inouïe à son endroit par des commentateurs, des consultants, notamment qu'il n'aurait pas sa place au Paris Saint-Germain, des trucs complètement fous. Donc voilà, c'était l'époque de la passion, et là on est plus dans la raison, avec des chiffres qui me paraissent quand même encore très élevés.
Cindy ?
Oui, alors moi je pense que Kylian Mbappé, c'est vraiment un joueur, il continue à son niveau, même si là il y a une baisse des niveaux. Et ce qui est important pour moi, c'est que je considère que c'est quand un joueur est dans les durs qu'on peut vraiment voir qui est ce joueur et si ça peut vraiment être un joueur d'avenir. Et effectivement, là qu'on le voit dans les durs, on constate que c'est un joueur qui arrive à se remettre en question. Hier en conférence de presse, non, à la presse, il disait simplement que pour lui, il avait une faiblesse physique et maintenant il va un peu mieux, que les critiques sont justifiées, donc il ne va pas s'en prendre aux critiques comme d'autres moins matures ou moins humbles pourraient faire. Je trouve ça intéressant. Je trouve également intéressant que Pochettino, la place qu'il lui a donnée hier, un peu plus axiale, lui réussit. Et pour moi, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce que l'entraîneur, où est-ce qu'il les place et comment est-ce qu'il gère les situations difficiles quand un joueur est dans les durs.
Alors, il va falloir qu'on fasse des réponses plus courtes. Je vous en prie, vraiment, hein, s'il vous plaît. La prochaine fois, la parole sera à David Ayello. Pour l'autre sujet, Erwan Lestrand, le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir. Qu'en disent les Français, qu'en disent les amateurs de football.
Alors ça, c'est une question assez exigeante. Hein. C'est vraiment la question Ballon d'Or. C'est Kylian Mbappé, a-t-il le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir? Et là, on a le même constat. 7 sur 10 parmi les Français considèrent qu'il a ce potentiel. Donc, il reste un très grand joueur dans l'esprit des Français, capable de marquer l'histoire du football. 8 sur 10 parmi les amateurs de football. Mais là encore, il y a une petite baisse de la conviction sur cette question. Ça montre peut-être qu'il y a besoin d'une performance de premier plan de Kylian Mbappé, mais aussi que les attentes des Français à son égard sont très fortes. C'est vrai qu'on n'est plus forcément sur ce jeune joueur avec lequel le pays avait noué une relation un peu affective. Aujourd'hui, c'est un leader qui a des responsabilités et les attentes sont fortes, mais pour autant, les Français sont convaincus que ça va être un très grand joueur à l'avenir.
David Ayello.
Oui, je pense que il partait quand même de très très haut, Kylian Mbappé. C'était, il y a eu ce phénomène, on n'avait pas vu ça dans le sport français, pas seulement dans le foot français, mais depuis très longtemps. Un si jeune joueur comme ça qui explosait au niveau mondial, c'était quelque chose d'assez incroyable. Donc il y a eu toute cette passion et cette affection pour lui. Et je pense qu'aussi un petit peu avec le temps et il y a une forme d'usure qui s'est installée, peut-être aussi parce qu'il a eu certains comportements qui ont pu surprendre. Et je pense qu'Erwan a dit quelque chose de très juste, qui lui manque là peut-être actuellement, effectivement, c'est des coups d'éclat, parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu ces coups d'éclat là. Mais je suis persuadé que s'il se met à briller face au Barça, sa cote va repartir et retrouver les niveaux qu'elle avait il y a quelques mois.
Alors concernant la baisse de forme de Mbappé, pour les amateurs de foot, là on va vraiment s'intéresser aux amateurs de foot, elle est liée à 47% pour des difficultés physiques pour le Covid, pour des blessures liées à sa cheville. Le niveau du PSG, ça c'est pour 34% des amateurs de foot. Des perturbations liées aux questions sur son avenir pour 30%. Une trop grande place de ses activités extrasportives, 22%. Et un calendrier surchargé, c'est étonnant, seulement 15%. Ça, je suis assez étonné parce qu'on n'arrête pas d'entendre cette petite musique du calendrier surchargé avec une saison précédente qui s'est enchaînée sur la saison actuelle.
Oui, mais ça vient s'imbriquer aussi avec la première réponse, c'est-à-dire l'accumulation des blessures et le fait de ne pas avoir pu totalement les soigner du fait d'un calendrier surchargé. Il faut savoir que Kylian Mbappé, par exemple, il joue toujours strappé à sa cheville. C'est-à-dire que cette blessure qu'il a subie en finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, il y a maintenant quasiment six mois, eh bien, il en a toujours des séquelles. Il joue strappé. Alors, c'est aussi pour ça qu'il joue parfois, même souvent, avec des moulets, avec des chaussures, pour avoir une meilleure sensibilité, parce que le fait d'être strappé, et donc il a des appuis qui sont moins bons. Enfin, il est perturbé dans son quotidien, Kylian Mbappé, et je pense que les gens qui ont été sondés ont perçu finalement assez clairement, assez fidèlement, je pense, la réalité.
Et Erwan Lestrohan, Mbappé doit-il quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison?
Et bien alors là, les réponses sont très partagées, c'est assez intéressant, hein. C'est que 49% des Français nous disent qu'il doit rester au PSG, 47% qu'il doit quitter le PSG. Les amateurs de football sont un peu moins protectionnistes, ils sont 55% à dire qu'ils devraient quitter le PSG. Ce qui est intéressant et ce qui a un peu à décortiquer là-dessus, c'est que les opinions sont partagées. Et ce que ça indique surtout, c'est que les Français ne sont pas sûrs que son avenir soit à Paris.
Un commentaire?
Oui, alors, je pense que cette divergence-là, elle traverse Mbappé. Je pense qu'il hésite. Et lui, il y a une partie de lui qui hésite à rester, il y a une partie de lui qui hésite à partir.
Non, et quelle serait la possibilité? Regardez la situation actuelle du Real Madrid avec Zidane, quoi qu'il arrive toujours à rebondir. Pour moi, aujourd'hui, si Mbappé décidait, en tout cas, de rester au Paris Saint-Germain, il pourrait devenir les Messi du PSG. Pourquoi? Par sa régularité, un joueur qui pourrait éventuellement, avec les années, avoir les statures d'un Messi, ça veut dire un joueur qui va être critiqué, mais qu'en même temps va toujours faire l'affaire et va toujours représenter Paris.
Le Messi du Paris Saint-Germain,
oui,
David.
Oui, là, les interrogations auxquelles d'ailleurs qu'il a révélé hein, hier en parlant de réflexion, elles portent aujourd'hui sur un point principal, c'est quel est le club qui va lui offrir les plus grandes garanties sportives, parce que économiquement il va s'y retrouver partout. Sportivement, est-ce que c'est plus intéressant ou en tout cas plus prometteur? Il y a plus de promesses et de garanties du côté du Paris Saint-Germain ou du côté du Real Madrid? Et aujourd'hui,
ça peut être Liverpool.
Tu as raison, ça peut être Liverpool, mais aujourd'hui, lui n'est pas capable d'y répondre, mais personne en fait peut répondre à cette question.
Erwan Lestrohan, merci beaucoup et à très bientôt. Non, on refait le match. Derrière la publicité, je vous rappelle que Mbappé a décidé de réfléchir. Il réfléchit actuellement. C'est ce qu'il a dit à nos confrères de Téléfoot.
Ben, c'est la décision la plus importante de sa vie.
Je réfléchis. Oui, enfin, il y en aura peut-être d'autres.
Hein. Oui, pour l'instant,
absolument.
Il y a 2 ans.
Tout à fait, Dominique. La pub, si vous le voulez bien. Et puis l'actualité Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, il faut qu'on en parle quand même. A tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match.
Christian Olivier.
La suite d'On fait le match avec Cindy Colmenares, David Aiello, Dominique Sévrac et Philippe Sanfourche à 20h RTL Foot, l'intégralité de Marseille-Monaco, le match ayant lieu au stade Louis II, donc Monaco-Marseille. Après notre invité en loge VIP, Michel Moulin, candidat à la présidente de la 3F, après avoir parlé de Kylian Mbappé, un mot sur le Paris Saint-Germain, c'est pas nécessaire. J'ai entendu, vide bureau, tiens, vous savez le hashtag vide bureau. J'ai entendu cet après-midi certains dire, et je ne les citerai pas par charité, dire que c'était le match le plus abouti du Paris Saint-Germain.
Le plus abouti
de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Non, ça...
J'en ai vu deux, trois mieux quand même. Hein.
Allez, on va dire depuis le début de la saison.
Non, je pense qu'il ne faut pas s'emballer parce qu'il y a une expulsion de gardien au bout de 20 minutes qui évidemment change la donne. D'ailleurs, c'était exactement à la même minute l'année dernière contre le même adversaire Montpellier, sauf que c'était pas le même gardien. Non, non, on peut dire deux choses. Un, Mauricio Pochettino a une équipe type en tête, avec Paredes au milieu de terrain pour accompagner Verratti. Bernat quand il reviendra, mais bon là c'est encore Kurzawa. Kimpembe qui était pas là, mais sinon voilà, c'est Diallo. Mais ponctuellement il y a des petits changements. Et l'autre chose, c'est que contrairement à son prédécesseur Thomas Tuchel, il ne fait pas tourner. C'est-à-dire que maintenant il a son équipe type en tête et il la met.
Méthode Pochettino.
Pardon ?
Méthode Pochettino.
Voilà. Son équipe type, toujours la mettre. Voilà, on ne change pas de système, on ne change pas de joueur.
À voir quand même, Dominique, parce que là, il a joué donc avec les quatre fantastiques, comme on dit. Est-ce que c'est l'idée qu'il aura pour affronter le Barça, notamment lors du match aller au Camp Nou?
Comme toujours, on sera confronté à.
Oui, mais non, c'est pour ça que quand tu dis il a l'équipe type en tête, je suis pas sûr que pour l'instant, il est encore, à mon avis, en phase. Il a la Ligue 1, il l'a.
4-2-3, il l'avait arrangé avec Keane au lieu d'Icardi, là c'était Icardi. Je vois pas il a l'air tellement cohérent que je le vois pas préparer le mi-janvier un truc qui va changer le 16 février.
Ouais, on est toujours sur la même volonté, c'est de se dire, et c'est normal, il arrive, donc c'est le mieux-disant, il essaye d'aller vers l'objectif le plus intéressant. C'est de se dire, j'ai des joueurs d'immenses talents, notamment sur le plan offensif. Si je parviens à les faire travailler sur le plan défensif, ne serait-ce que 15-20% de plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ça tient. C'est-à-dire que les quelques phases où on sera en difficulté dans un match qui représente 25-30% du temps seront gérées suffisamment bien pour que 70% du temps par ailleurs, on soit l'une des meilleures équipes du monde, peut-être même la mieux armée sur le plan offensif.
Vous avez vu la métamorphose aussi de certains joueurs, la Nicardi, qu'on le voyait vraiment, n'était pas à son niveau habituel dès qu'il y a Pochettino. Bah, en fait, on a l'impression que les joueurs, finalement, retrouvent leur place.
Enfin, là, j'ai du mal quand même, Cindy, à me dire que c'est Pochettino qui a remis comme ça.
Icardi, c'est juste que Moïse Keane a donné satisfaction et qu'il a senti qu'il avait chaud aux fesses, c'est tout, et qu'il fallait se réveiller.
Oui, le plus abouti, soyons prudents.
De la semaine, si.
Et puis, si j'ai envie de chauffer un tout petit peu, parce que j'avais pas envie de chauffer Twitter hier, mais est-ce que vraiment il y avait pénalty?
Oui. Pénalty, non.
Alors,
carton rouge. Je ne sais pas ce qu'il a fallu. Sur le moment, il donne un jaune, l'arbitre, et il a fallu l'image.
Ah bah ça, c'est le VAR maintenant. On ne sait plus rien.
On dit qu'un arbitre doit faire preuve de psychologie, et Dieu sait si je les adore, les arbitres, et ce n'est pas facile tous les dimanches sur les terrains amateurs, qu'ils ne jouent pas pour. Quand on doit faire preuve de psychologie, on attend de voir comment va Mbappé. Déjà, il n'y aurait pas eu but parce que de toute façon le ballon était récupéré par un défenseur.
Il y avait Hilton.
Et puis Mbappé, alors je ne dis pas que parce que Mbappé n'était pas blessé qu'il ne fallait pas juger peut-être différemment, mais ça me paraît un peu.
La seule chose, Christian, c'est que le gardien ne joue pas le ballon.
Vous êtes en train de nous dire que c'était sévère, Christian?
Je trouve que le carton rouge est sévère.
Ah ouais.
Je trouve que c'est un jaune foncé, mais pas tout à fait rouge. C'est les règles
du football, c'est normal. Il y a eu une prise de risque. Pour moi, c'était un bon attentat. Et de la même façon, on pourrait dire que Neymar aussi méritait un jaune. Il n'a pas eu non plus. Bon. Donc moi, je pense qu'au niveau de l'arbitrage.
C'était simplement pour vous chauffer. Je n'y suis pas arrivé. Sur les réseaux sociaux, ça chauffe en tous les cas. Baptiste Durieux, les messages.
Oui, toujours. Message de Tristan sur Mbappé. J'ai retrouvé Kylian hier soir. Excellent sur le terrain, à la finition ou à la passe. Et excellent aussi en interview. Mature, efficace, clair, tout est rentré dans l'ordre. Message d'Étienne qui est un peu plus sceptique. C'est la même chanson, en fait, doublée contre des Montpellierains malades à 10 contre 11. Quand on atomise l'Argentine, quand on marque en finale de Coupe du Monde à peine 20 ans, on veut le voir aussi décisif en Ligue des Champions. Point final. Et message de Zachary, on est exigeant, comme lui aussi est exigeant envers lui-même. Ce que je pense, c'est que Paris n'est pas assez exigeant pour lui, pas assez structuré, pas assez institutionnel. Quoi qu'il arrive, personne ne peut ni l'acheter, ni payer son salaire, donc il reste. sera.
Et l'exigence, il l'assume. Vraiment, hier, c'était un modèle de réponse, de questions-réponses, d'ailleurs, je trouve, à télé. Et l'exigence, il l'assume également.
Et de transparence aussi.
Un peu de transparence, voilà.
Et humilité. On lui critique souvent, parfois, il y a des échos comme quand il manque d'humilité. Ben non, ben justement, hier, il a su reconnaître ses fautes, ses erreurs.
D'autres qualités.
Oui, non, mais. Alors, en fait, les dernières semaines, il avait parfois un petit peu cette moue, ce côté agacé, qui était lié à la fois à l'exigence envers lui-même, où en fait ses performances ne lui satisfaisaient pas, ce qui est une évidence. Et il apprend aussi, il voit que eh bien, l'opinion publique, les médias, tous les gens qui lui ciraient les pompes pendant des semaines et des mois, peuvent très vite se retourner. Et ça, il l'a pris un peu pleine poire et il a eu du mal à l'accepter.
Mais il faut qu'il en plein plein, comme ça, il a plein d'étranglants.
C'est pour ça qu'hier, je connais très très bien mon pays. Je pense qu'il voit très bien qu'on est, comme on dit en France,
faut savoir qu'ils étaient quand même lâches.
On va pas faire une spéciale Mbappé. Il y a de la Ligue 2 également, Baptiste Durieux.
Absolument, 21e journée. Caen qui est mené à domicile de Buzyn par Rodez. 1-0 pour Châteauroux contre Valenciennes. 2-0 pour Dunkerque contre l'AC Ajaccio. Toujours 0-0 entre Grenoble et Chambly. 0-0 également entre Le Havre et Guingamp. 1 partout entre Nancy et Niort. Le Paris FC qui mène à Charletti 3-1 face à Amiens. Et 0-0 entre Pau et Troyes.
Et Clermont a battu cet après-midi la JOCR par 1-0. Super match de football. Marseille. L'Olympique de Marseille. Aïe. Question suivante. Faut-il craindre le grand déballage? Pourquoi? Parce que finalement, Villas-Boas valide le fait que Thauvin et Payet ne peuvent pas se blairer.
Ne peuvent pas partir en vacances ensemble.
Bah, ça veut dire, c'est la même chose, c'est la même chose. Et donc ça, c'est en général un entraîneur amorti un petit peu.
Bah oui, ça m'a surpris.
Alors, faut-il craindre le grand déballage, les amis?
Mais ça m'a surpris. Enfin, je veux dire, un entraîneur, il l'a souvent fait. Il est là pour protéger son équipe, ses joueurs, les vestiaires. Alors, ce qui se passe dans le vestiaire, bon bah voilà, c'est pas à lui de venir confirmer que les joueurs peuvent pas se voir. Je veux dire, là, maintenant tous les matchs, on va scruter. Alors déjà que c'était le cas, mais alors en ayant comme ça validé cette opposition entre les deux, on va scruter le moindre petit geste entre les deux.
Mais c'était très malin parce que qu'est-ce qui se passe? Andrés Villas-Boas, c'est dans les durs, et qu'est-ce qu'il fait? Il détourne l'attention. Allez, on va parler des paillettes, on va parler des Thauvin, on parle pas du coup des résultats.
Mais non, parce que ça revient sur lui. On va dire qu'il est pas capable de gérer ça.
On met un petit boulet dans la chaudière de la crise quand même.
C'est malin.
Moi, je trouve que sa communication, elle est incompréhensible depuis de longs mois. Là, cette semaine, après la défaite contre Lens, il nous a dit qu'il se remettait à la disposition de sa direction. Ça veut dire quoi? Bah, virez-moi. J'ai pas compris ce qu'il voulait. Maintenant, il confirme ce qu'effectivement, David disait, ce qu'on ne fait jamais, confirme les tensions dans un vestiaire. Donc, soit oui, il veut détourner l'attention, mais ça, c'est un effet boomerang, ça va lui retomber un jour sur la figure. Je comprends pas parce que je le suis pas avant le match contre Paris pour le trophée des champions. Il dit le championnat, c'est le championnat le plus déséquilibré du monde. Donc grosso modo, je peux pas gagner. Puis après, il dit j'étais plus fort. Alors que grosso modo, Marseille a eu quasiment une seule occasion qu'ils ont mis. Mais il peut pas dire que Marseille était plus fort sur ce match-là. Donc moi, je suis perdu.
C'est impossible de le suivre en ce moment.
Moi, je sais pas ce qu'il cherche. Je le comprends pas. Il est très sympathique par ailleurs. Je pense tout simplement qu'il est pas fait pour ce club-là. Villas-Boas Marseille, ça ne marche pas.
Oui, pas ou plus peut-être. En tout cas, on sent une usure, sans faire de comparaison, parce que les hommes sont différents et les clubs aussi. Mais Thomas Tuchel était arrivé parfois à un point de communication où on comprenait plus trop où il allait en venir. Dans ses choix, dans sa façon sans filtre d'attaquer parfois la politique du club... rarement les joueurs en l'occurrence, mais souvent la politique du club. On sentait qu'il se mettait en danger sciemment. Villas-Boas, c'est pareil. On a l'impression à chaque fois qu'il tend le bâton pour se faire battre. Quand il parle de prolongation, il dit oui, moi je comprends pas. En France, il faut signer 2 ans, 3 ans. Moi, ce que je veux, c'est un contrat court. Enfin, en gros, il fait tout l'inverse de ce qu'on attend d'un entraîneur qui devrait vouloir rester en poste. Donc, c'est pas des fondations qui semblent très solides pour l'avenir.
Dernières infos en direction ou en provenance plutôt de l'Olympique de Marseille. Donc, Mitroglou a cassé son contrat, rupture de. Là, ça s'est fait plus ou moins à l'amiable. Il prend la direction d'un des clubs de Salonique. Morgan Sanson prend la direction d'Aston Villa.
Pour un très bon montant. On parle de 18 millions d'euros. C'est, par les temps qui courent, c'est une affaire...
C'est un financement parti.
C'est une opération Milik. Retard,
et l'Olympique de Marseille qui a trouvé son numéro 9. Son avancement.
Ah, les grands ratatins.
Milik.
Milik, le Polonais.
Bon. Oui, ça va coûter un peu d'argent et il n'a pas joué depuis le 8 août. Donc on va attendre de savoir quand
est-ce qu'il sera... D'accord, quand tu vois où est l'OM aujourd'hui, c'est tombé du ciel.
C'est super. Ils sont pas défaites de suite. Hein. Ce soir, ils vont à Monaco.
C'est tombé du ciel. C'est que, vu qu'il a quand même il a eu des problèmes depuis août, donc on ne connaît pas trop sa situation. C'est pour ça que l'OM a pu finalement les récupérer, je pense.
C'est parce qu'on parle quand même d'un international polonais.
C'est super.
Qui a marqué une quarantaine de buts avant avec l'Ajax, qu'on a marqué une cinquantaine en Italie. On parle pas d'un tocard, quoi.
Ah non, non, non.
Non, mais justement, c'est parce qu'il n'a pas 35 ans non plus.
Il en est à jouer.
C'est pas Benedetto, quoi.
Là où il est pas
tombé.
Est-ce que tu penses que le problème, c'est vraiment Benedetto? Parce que Benedetto, sur Boca, après l'ère de Palermo, c'est un des plus grands attaquants que ce club a eu. Et on n'a pas réussi à avoir ce Benedetto, pardon.
Mais à l'âge qu'il avait, on savait de toute façon que si ça avait été un crack, on l'aurait su avant.
On est obligé d'arrêter là, enfin, pour l'instant, page commerciale. On va parler de la Ligue européenne, ligue fermée également. Et puis, les tirs au but, quand même, hein, en fin d'émission. De on fait le match. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Madame, messieurs, les riches vont-ils faire la révolution? Les clubs les plus nantis du football européen veulent organiser une Ligue européenne fermée. Sans évidemment l'UEFA pour l'instant, sans la FIFA. Alors l'UEFA voit évidemment d'un mauvais œil cette concurrence avec sa compétition qui est la Ligue des Champions. Et la FIFA pour l'instant, est-ce que ce n'est pas une partie de poker menteur?
Ouais, parce qu'on a dit aussi à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, que la FIFA était à l'origine également
et
de ce projet.
Et que la FIFA était en guerre avec l'UEFA.
On rappelle à nos auditeurs
pour l'instant,
que la FIFA et l'UEFA, c'est quand même deux entités qui sont extrêmement opposées.
Pour l'instant, la FIFA. Alors, pardon.
C'est la FIFA qui a fait le communiqué cette
semaine. Alors la FIFA dit attention, si vous participez à cette compétition, plus de sélection en équipe nationale. Donc pour l'instant, la FIFA marche main dans la main avec l'UEFA. Attendons, mais cette compétition est quand même mise sérieusement en place par Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester United. Donc 6 clubs anglais, 3 clubs espagnols, le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético Madrid, 2 clubs allemands, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, et le Paris Saint-Germain, un seul club français.
En tout cas pour les membres permanents, parce qu'on rappelle qu'il y a une hypothèse, il y aurait également 5 invités par saison, dans lesquels il pourrait dans ce cas-là avoir effectivement Lyon. Un club français, Lyon...
Et les 6 premiers clubs pourraient toucher chacun 350 millions d'euros. Pour les autres, c'est un pourboire à 150 millions d'euros,
forcément,
vous imaginez.
Christian, la crise du Covid a accéléré la volonté de ces groupes puissant de créer cette ligue fermée puisque tous les clubs souffrent. On parle de 200 à 300 millions d'euros pour chaque grand club de manque à gagner. Pas de billetterie, pas de sponsors, bah les sponsors qui sont pas visibles, donc qui demandent une ristourne, pas de public, pas de VIP. Après, moi ce que j'entends, c'est que l'UEFA et la FIFA vont demander à la Commission européenne de faire une loi qui empêche ce genre de création européenne pour qu'il y ait par exemple plus aucun arbitre qui aille, parce que vous voyez, pour faire un match de foot, il faut quand même un arbitre.
Bien sûr.
Et si cette compétition n'est reconnue ni par la FIFA, ni par l'UEFA, ni par la Commission européenne, bah, les arbitres, ils vont pas aller, par exemple, on ne trouverait pas d'arbitre pour arbitrer les matchs. Mmh. Et donc, ces matchs, tu le pourras
sauf qu'on a dit exactement la même chose, et à une époque très lointaine et dans un registre différent avec l'arrêt Bosman. Mmh. L'arrêt Bosman, c'est désormais la libre circulation des travailleurs, donc des footballeurs. Et là, les avocats vont s'engouffrer dans les juridictions pas possibles pour appliquer notamment la libre concurrence. Mmh. Une compétition qui concurrence une autre compétition. Mmh.
Ça, c'est un point capital, parce qu'effectivement, ça remonte un petit peu aux lois fondamentales de l'Union européenne. Donc, c'est pas évident, effectivement, que l'UEFA et la FIFA puissent, en tout cas, dans un laps de temps assez raisonnable, arriver à faire changer et même faire voter ces lois, parce que fondamentalement, elles vont à l'encontre de l'esprit européen. Et puis, l'autre point, quand même, qu'on est obligé d'évoquer, c'est le fait que, souvenez-vous, dans les années 90, ça s'appelait Media Partners, on a vu la même, à peu près le même projet. Dans les années 2000, ça revenait également. Et en fait, à chaque fois, ça a servi de levier de pression pour négocier, en fait, une nouvelle formule à la Ligue des Champions. Donc là, au moment où on parle, ça paraît effectivement assez avancé, mais il n'est pas impossible non plus que ce projet-là serve encore une fois de moyen de pression
pour obtenir...
Je vous rappelle qu'en basket, ça existe déjà. L'Euroleague, qui est la vraie Coupe d'Europe, la vraie grande et belle Coupe d'Europe, avec Villeurbanne notamment, puis il y a maintenant une sous-coupe pour les autres clubs.
Oui, mais là où c'est incomparable, c'est que... tous ceux qui souhaitent, le CA, tous les clubs qui ont cette volonté. C'est un peu le G7, enfin le G20 des grands clubs.
Le syndicat des gros clubs. Ouais.
Ils ont des intérêts particuliers. Et comme en ce moment, comme le disait Dominique, le gâteau se réduit du fait de la crise, ressurgit ce vieux serpent de mer. Mais arrivent toujours dans un second temps les intérêts des ligues. Qui sont très puissantes, la Première Ligue, la Bundesliga, la Ligue espagnole qui est aussi très puissante à l'international. Et si vous créez une Coupe d'Europe, une Ligue européenne fermée, vous impactez de fait ces ligues qui sont très puissantes. Donc pour l'instant, c'est une digue qui est loin de pouvoir sauter du fait de la puissance des ligues nationales.
Je pense que ces riches, Christian, se trompent sur le football, sur l'amour du football des gens. Je pense qu'il y a eu plus d'émotions au titre de champion d'Angleterre de Liverpool, même si c'était en temps de Covid, que quand Liverpool a été champion d'Europe. Je pense que les gens...
Ça dépend des marchés
le
aussi.
Le feuilleton du championnat, c'est intemporel, universel, éternel.
Et vous savez quoi ? Je pense que ces clubs européens se servent de ce levier d'action
pour une pression
supplémentaire auprès de l'UEFA, de façon à faire une Ligue des Champions de plus en plus fermée.
Oui, mais en attendant, on peut quand même saluer, parce que c'est une énorme réussite que la FIFA et l'UEFA aient réussi à mettre tous ces petits mondes d'accord pour lancer un communiqué comme ça. Après, je pense que les choses ne vont pas en rester là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une jurisprudence européenne. Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment réussir à imposer ou interdire qu'il y ait d'autres compétitions qui puissent être créées? Je ne pense pas. Pour moi, ça reste purement un moyen de pression.
Il faut se rendre compte que dans le schéma proposé là, où sont les sponsors, où sont les partenaires, où est l'argent? Car j'ai bien fouillé...
L'argent, c'est les télés.
Oui, mais j'ai bien fouillé dans cette étude. C'est-à-dire que le dernier de cette compétition touchera autant que le vainqueur actuel de la Ligue des Champions.
Parce que le plateau est extrêmement prestigieux, donc forcément ça va attirer certainement plus. Aujourd'hui, on voit bien en France qu'on a des problèmes pour trouver des diffuseurs pour diffuser la Ligue 1. Les mêmes diffuseurs, vous leur proposez cette fameuse Super League avec un plateau absolument incroyable et toutes les stars, les meilleures stars mondiales toutes les semaines, je pense qu'elles sont certainement plus intéressées que par la Ligue 1.
Alors, c'est l'avenir du football ou
Je pense que le foot, ça commence à l'abonné, qui commence par s'abonner ou à une télévision ou à un bouquet de chaînes pour regarder des matchs ou à dans le stade.
Je crois que c'était le football d'avant. On a eu le débat samedi dernier, mais je crois que ça doit être le football d'avant, l'abonné. J'en ai bien peur.
Il y aura toujours des plateformes pour regarder tout
ça.
Oui,
mais tu vas acheter au match peut-être ou tu vas.
C'est un abonné ça.
Bah non, pas forcément, parce que tu seras plus volatile.
Au coup par coup.
Oui, mais donc ce volant d'abonnés qui tourne, ça reste des abonnés, c'est eux qui font vivre le foot. Et donc c'est pas les grands matchs européens. Je pense que les gens veulent voir leur Dijon, Lorient,
Non, cher Philippe Sanfourche, il va falloir raisonner vos amis du Paris Saint-Germain, hein, car ce n'est pas l'avenir du football, et en tout cas pas l'avenir du football français. Et ça situe quand même un petit peu aussi le niveau du football français et l'image que renvoie le football sur le continent européen. Hein. Dans ce cadre-là, un seul club.
Ça le remet à sa juste place.
Je vous rappelle qu'on a gagné qu'une seule Ligue des Champions.
Oui. Ouais. N'oublions pas cela quand même.
Oui, mais enfin bon.
Bah oui, mais donc
il y a combien de clubs portugais, parce que eux ils en ont plus que nous des...
Il y aura des clubs invités, c'est ça.
Oui, il y a des clubs invités, mais après le potentiel dont on parle, c'est le potentiel économique. Dans la liste des 6 clubs anglais, il y a Tottenham. Donc Tottenham en termes de palmarès, c'est zéro, sauf que économiquement aujourd'hui c'est beaucoup plus puissant qu'un club portugais.
On rappelle qu'à l'origine de ce projet plus ou moins abouti ou projet pour faire pression, il y a Bartomeu, l'ex ancien président de Barcelone, il y a la famille Agnelli pour Turin.
C'est eux les plus...
Oui, le CA.
C'est eux qui veulent le plus.
Karl-Heinz Rummenigge, enfin en tout cas le Bayern Munich.
Le premier à critiquer le PSG sur son argent.
Et je ne vois pas Jean-Michel Aulas, c'est l'Olympique Lyonnais.
Puisqu'il n'est pas dans les clubs.
On a tout dit là-dessus.
Ouais.
On tourne une page de publicité et ensuite les tirs au but.
Allez.
Avec un certain nombre de sujets, je le rappelle. Hein, je rappelle le concept pour les auditeurs nombreux toujours qui nous rejoignent. Des sujets d'actualité dont vous n'avez pris pas connaissance. Que vous allez découvrir au fur et à mesure qu'on va les égrener. Et il faudra répondre évidemment au coup de sifflet de l'arbitre. A tout de suite, 19h50.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Les tirs au but, la dernière ligne droite avant RTL Foot, bien sûr, David Aiello, Cindy Colmenares, Dominique Sévrac et Philippe Sanfourche. Tiens, on parlait de nouveaux modèles de championnat. On va parler de Jean-Michel Aulas avec, dans les échos, une proposition de Jean-Michel Aulas. Et là, il remet un petit boulet dans la chaudière pour rendre le championnat plus attractif. Réduction du nombre de clubs et formule play-off en amorce du championnat et en désamorce, donc à la fin du championnat de France. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?
Moi, je trouve que c'est une bonne idée en tout cas, que de vouloir réformer le football de manière générale et en tout cas la formule des compétitions. Alors après, on va pouvoir discuter. Moi, les play-offs, par exemple, ça me fait un petit peu peur parce que le titre de champion de France, ça récompense la régularité. Si le titre de champion se joue sur un match type final, bon bah il y a un petit peu moins de mérite, je trouve. Donc mais après ça c'est des modalités
dont on
peut discuter.
Est-ce que c'est pas le moyen pour Lyon d'être champion de France?
Évidemment, il parle de ça également. Mais en tout cas, je trouve que dans l'idée, réduire le nombre de clubs, ça fait des années qu'on le dit. On a obtenu enfin la tête de la Coupe de la Ligue. Réduire le nombre de clubs et puis effectivement réfléchir. Alors si c'est une formule play-off, on peut aussi imaginer peut-être une finale au meilleur des trois matchs. Pour garder un petit peu de mérite. Mais en tout cas, je trouve que dans l'idée, il a raison, il faut bousculer un petit peu le football à papa.
Mais ça lui vient, cette idée à Jean-Michel Aulas, à partir de l'époque où on a dû arrêter les compétitions, il n'a pas pu, du coup, l'OL s'est retrouvé en haut du classement. Enfin, c'est toute cette histoire, je pense que ça l'a traumatisé. Et voilà, et maintenant, comme d'habitude, on a maintenant l'habitude de savoir qu'il veut toujours un peu tirer son épingle du jeu pour son équipe. Et voilà, essayer de faire des choses qui pourraient les faire passer.
C'est une question finalement qui rejoint la précédente sur l'affaire de Super Ligue européenne ou tout cela. C'est Jean-Michel Aulas, il raisonne en chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ça veut sécuriser ses actifs, sécuriser son activité, voire à long terme. Ce qu'il voit, c'est que avec sa force de frappe, si vous organisez une compétition comme celle-là, il sera tous les ans à minima, dans un dernier carré qui lui permet justement d'être sur le devant de la scène. Et il n'aura pas cet aléa qui peut arriver sur un début de saison que tu traînes comme un boulet et qui ne te permet pas par la suite d'aller prendre une place européenne et tu le payes ensuite sur plusieurs saisons en termes d'investissement et en termes de visibilité économique.
Mais bon, allez. Deuxième tir au but. Tiens, on va passer de l'Olympique Lyonnais, de la Super Ligue européenne à la Ligue 2. Clermont a battu Auxerre cet après-midi par 1-0. Vous avez tous et toutes vu le match, bien évidemment.
Bien sûr.
Excellent match de football. Vous arrive-t-il de vous régaler parfois autant qu'avec des matchs de Ligue 1?
Non, ben attendez, vous, c'est une blague, quoi.
Non, mais je vais vous dire. Vous préférez regarder un mauvais Marseille-Paris Saint-Germain plutôt qu'un bon Clermont franchement, si vous aimez le football, vous aimez la Ligue 2.
Ça dépend des matchs.
Ce qui est bien, c'est qu'on découvre des joueurs qu'on va souvent voir après en Ligue 1. Donc c'est souvent intéressant pour regarder la Ligue 2 pour ça, pour voir les joueurs qu'on verra dans les clubs intermédiaires entre la 8e et la 15e place. On verra voilà, ces joueurs-là. Donc c'est parfois intéressant. Après, je ne vous cache pas que le niveau est quand même incertain. Là, vous êtes tombé.
Cette saison, le niveau est excellent.
C'est un peu la boîte de chocolat. Vous savez jamais
ce que
vous
regardez. Je pense que vous ne regardez pas le championnat de France de Ligue
1. Non, et puis surtout, les niveaux de la Ligue 1.
Est-ce que c'est le niveau qui est excellent ou est-ce que c'est la densité de la compétition qui rend le spectacle intéressant?
La densité de la compétition.
Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent les premières places.
Trois, Clermont, Toulouse, Auxerre.
Voilà, il y a une vraie incertitude. Il y avait au début de la saison, il y avait le Paris FC.
Grenoble, Paris FC, Sochaux, Amiens.
Voilà, donc vous en avez cité. Il y a 7-8 clubs qui sont capables de se tirer la bourre. Mais vous vous rendez
compte, de 3 à Valenciennes, toutes les équipes que je viens de citer, les 10 premières, ce sont des bastions du foot.
Mais bien sûr, mais est-ce que c'est pour cela que ça rend les matchs de haute qualité?
Mais pas forcément. Mais cette saison, je trouve que la Ligue 2 est d'un très bon niveau, et avec du jeu offensif, et avec des entraîneurs qui ont également des principes de jeu, comme on dit souvent.
La question qui prolonge la vôtre, c'est de savoir si ces équipes de Ligue 2, une fois qu'elles se retrouvent en Ligue 1...
Ah non, c'est autre chose.
Ah bah oui, mais si, c'est important, parce que souvent, ensuite, après, on retrouve des équipes qui sont paralysées par l'enjeu.
Moi, ou des équipes comme Lens qui arrivent
à 50 millions d'euros, c'est cadeau.
Où il y a des équipes comme Lens.
Par rapport au jeu qui nous a proposé, c'est cadeau.
Ouais, où il y a des équipes comme Lens qui arrivent à battre l'OM, ça arrive aussi.
Oui, cette année. Oui.
Cette année, parce que vous savez, le contrat, ça dure 4 ans normalement. Bon, là, il va durer 3 ans et la fin de la saison. Et vous êtes pas, vous tombez pas toujours sur des bonnes
équipes. Regardez la Ligue 2.
Il y a aussi en termes de spectacle un nivellement par le bas qui là n'est pas du fait des joueurs et des compétiteurs, des entraîneurs. C'est tout simplement que le phénomène huis clos fait que un match de Ligue 2 ressemble plus à un match de Ligue 1. Vous n'avez pas ce phénomène quand vous avez un vélodrome à 60 000, un Parc des Princes rempli comme un chaudron. Il y a cette différence qui est énorme entre la Ligue 1 et la Ligue 2. En ce moment, elle est gommée.
J'ai encore 2 tirs au but et sous forme d'informations. Donc autant les donner, mais même si elles seront développées dans RTL Foot après 20h. Flers, petit club de régional amateur, premier forfait en Coupe de France qui ne jouera pas contre Rouen car pas les moyens de se payer des tests anti-Covid, pas possible de s'entraîner, etc. Est-ce que c'est le premier de plusieurs forfaits qui vont venir pour les clubs amateurs?
Oui. Pas moyen de se payer des tests. C'est pas payant de se payer des tests. Tests en France,
oui,
c'est
vrai, c'est pas faux.
C'est juste une question de volonté et d'organisation.
Il faut quand même les amender et les payer, non?
Non, tu ne les payes pas les tests. Les tests, ils sont remboursés par la Sécurité sociale.
Je pense que les clubs les payent quand même.
Moi, je pense que
si, peut-être
si vous traversez la ville,
c'est gratuit. Non, mais c'est sûr que si tu fais
les vrais difficultés, difficulté, c'est aussi par rapport... il est bien évident qu'en ce moment, les médecins ont beaucoup de boulot et qu'il y a plus important à faire que de sécuriser un match de Coupe de France. Donc, par exemple, le fait d'avoir un médecin référent Covid sur chaque coup d'envoi de rencontre, un samedi à 14h30, entre deux équipes sur un terrain au fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, c'est pas évident. Mais je sais que la fédération y travaille beaucoup pour avoir aussi les médecins de ligue et de district qui pourraient éventuellement se déplacer en cas de souci. Ça va être un problème, mais en tout cas, on ne peut pas reprocher.
Entre les couvre-feu à 18h, 20h, 18h, tout le monde sait qu'en février ou mars, on sera reconfiné en France. Tout ça, c'est quand même
plus,
un bordel.
Allez, plus les équipes décimées par les cas. Dernier tir au but, l'actualité par rapport au programme qui vont suivre. L'OM doit-il faire jouer sa nouvelle recrue, la Milik, ce soir?
Oui.
Non.
Écoute, s'il
fait oui, non.
Quelques minutes, mais pas.
Non, il n'a pas joué depuis le 15 novembre en sélection.
Non, mais pas titulaire. C'est la pas titulaire, mais oui, qu'il les fasse jouer, oui, ça serait intéressant pour qu'il commence à s'émettre.
Non, pour Sévrac.
Qui joue?
Ça dépend du scénario du match.
Ça dépend pour.
Il n'y a pas d'animation.
Bien sûr qu'il joue. C'est un talent qui joue. Icardi, quand il est arrivé au PSG, il n'avait pas joué depuis 7 mois. Il a été formidable contre le Real Madrid.
Et puis, qu'est-ce qu'il manque à l'OM? L'animation offensive. Donc, autant, allons, on se met au travail.
Allez, c'est le programme qui nous attend, en tous les cas, dans RTL Foot, 20h-23h, avec l'intégralité de Marseille-Monaco. Décidément, j'ai du mal ce soir, c'est Monaco-Marseille, puisque le match a lieu au stade Vidéo. Et vous retrouvez Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Domer, Quentin Vasselin et bien évidemment Raymond Abou. Et vous tous qui nous êtes fidèles, bien évidemment. Très bonne soirée, très bonne nuit à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.
Bonsoir.